cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM.
Les 5e Assises nationales de la lutte contre le négationnisme, une tradition, 5e édition, ça a eu lieu jeudi dernier à l'Hôtel de Ville de Paris, sous le thème « 100 ans après, nier le génocide ». Aujourd'hui, nous allons reprendre les thématiques abordées durant cette journée face à un groupe d'étudiants de l'école Paris Business School qui était massivement présent pour savoir ce qui se dit sur le négationnisme en général et cette année centenaire du génocide arménien, sur le négationnisme du génocide arménien. Avec nous, autour de cette table, Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour Martin.
Vous êtes à l'initiative de ces assises nationales de lutte contre le négationnisme. Avec nous, Bernard Brunuto, historien, bonjour.
Bonjour.
Et Seta Papazian, président du collectif Van, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Ancel, on va peut-être poser la question la plus banale. Pourquoi faire une conférence aujourd'hui en France, des conférences et ces assises contre le négationnisme?
Parce que le négationnisme est un fléau, c'est une insulte à la face des victimes qui ne peuvent bien évidemment pas se défendre, et c'est une insulte à la face des descendants des rescapés. Autrement dit, ça exaspère les vivants, ça humilie la mémoire des morts, et dans une démocratie digne de ce nom, prétendument et authentiquement, pour ce qui concerne la France et l'Europe civilisée, on ne peut pas laisser passer, et notamment pas au nom de la sacro-sainte et soi-disant liberté d'expression. On ne peut pas tout dire, on sait que les mots tuent, les mots peuvent tuer, souvent à l'origine des génocides, et notamment les trois grands génocides du XXe siècle, il y avait des mots, et on ne peut pas tout laisser dire, et notamment pas des propos à caractère négationniste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que, et là je le dis en tant que géopolitologue, le négationnisme exaspère également et tende les relations entre des États très contemporains. Aujourd'hui, nous avons, pour ce qui concerne la mémoire du génocide d'Arménien, deux États qui instrumentalisent la négation et qui expriment bien évidemment la négation du génocide arménien d'il y a 100 ans, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et du point de vue, du simple point de vue des relations internationales, des froides et objectives relations internationales, c'est quelque chose qui exaspère, comme cela exaspère d'ailleurs les relations entre l'actuel Rwanda et un certain nombre de pays qui maugréent encore, ou des régimes politiques qui minimisent en tout cas le génocide des Tutsis de 94, comme cela exaspère les relations entre l'État d'Israël et d'autres États. Donc pour toutes ces raisons, il y a effectivement 5 ans, l'ESG qui a changé de nom effectivement, maintenant c'est Paris School of Business, une grande école de management, eh bien j'ai décidé de créer des assises nationales antinégationnistes. Nous avons eu 4 premières moutures ces dernières années, qui donneront lieu, donc 4 premiers colloques, qui donneront lieu à la publication chez Albin Michel en janvier prochain d'un livre noir du négationnisme. Ce livre noir ne sera bien évidemment lui-même qu'un premier épisode, puisque le colloque dont on va parler, qui a eu lieu donc jeudi dernier à l'Hôtel de Ville, lui figure dans le deuxième ouvrage, avec d'autres, bien évidemment, interventions qui auront lieu dans les prochaines années.
La question du génocide arménien et de sa négation ont toujours été à l'ordre du jour des précédentes, la plupart des éditions déjà. Donc dans ce livre aussi.
Toujours, et vous m'en êtes témoin, bien sûr, dans ce livre aussi, bien évidemment. Il sera d'ailleurs, j'ai presque envie de dire qu'il sera prioritaire pour une raison à la fois triste et simple. Il n'y a plus aujourd'hui de rescapés de témoins ayant la possibilité de témoigner. Il y a encore des témoins de la Shoah. Il y a beaucoup de témoins et de rescapés, de victimes du génocide des Tutsis. On peut d'ailleurs étendre, même si du point de vue du droit international, c'est plus compliqué, mais on peut étendre cette notion peut-être de génocide au Cambodge. Dans tous les cas, vous aurez des témoins. Il n'y en a plus pour le génocide arménien. Et j'ajoute que aujourd'hui, sauf dans une certaine mesure, le régime iranien, encore que ce soit un petit peu compliqué, aucun État au monde ne nie la réalité de la Shoah. Aucun État au monde ne nie, certains minimisent, mais personne ne nie la réalité du génocide des Tutsis. Aujourd'hui, deux États nie effrontément la réalité des génocides arméniens, et plusieurs dizaines d'autres, en réalité, la majorité, je parle sous votre contrôle, mais la majorité des États du monde, n'ont pas franchement, et parfois pas du tout, reconnu ce génocide. Autrement dit, il y a quelque chose d'extrêmement, j'allais presque dire, pas un faux paradoxe, urgent. Pas seulement parce que c'est une date symbolique, s'entend, mais il y a quelque chose d'urgent pour cette raison-là, parce qu'il est vivace, parce qu'il est national, parce qu'il est étatique, parce qu'il fait partie de l'OTAN, et par conséquent, parce qu'un État allié, officiellement, continue de nier ce génocide, à poursuivre évidemment les travaux et les assises sur
alors,
cette question.
Un autre paradoxe, vous parlez de la nécessité de ces assises contre le négationnisme en France au XXIe siècle, dans un pays de grande démocratie, de liberté, de droits de l'homme. Pourquoi cette question est si urgente, si importante, alors qu'on devrait se dire la communauté nationale, l'opinion publique, les jeunes aujourd'hui devraient savoir ce que c'est l'histoire de ces génocides et pourquoi on ne devrait pas et on ne pourrait pas nier ces génocides-là.
Alors, vous avez raison. C'est une question centrale. En même temps, je pense que le droit sur cette question-là peut, là aussi, par un faux paradoxe, faire avancer les choses. Je veux dire par là que dans les livres d'histoire et de géographie, parfois dans certains livres d'instruction civique, à travers des voyages, notamment à Auschwitz, la Shoah, aujourd'hui, est enseignée. Alors, dans beaucoup de lycées, ça pose problème pour toute une série de raisons qui n'ont pas lieu d'être développées ici. Mais, en tout cas, elle est enseignée depuis au moins les années 70. Voilà. Et vous avez un mémorial ici très, très officiel, qui est très riche, qui est très abondant. Sources, etc. Et puis vous avez des témoins qui interviennent dans les lycées. C'est pas le cas pour le génocide arménien. Donc à la limite, même si effectivement aujourd'hui très peu de ressortissants français nient ouvertement le génocide arménien, malgré tout, néanmoins, il y en a de plus en plus. Ça reste encore une toute petite minorité. Mais ces dernières années, dans des villes comme Valence, où s'étaient produits d'ailleurs des violences à l'encontre de jeunes Arméniens commémorant le génocide, et dans d'autres villes, y compris d'ailleurs Paris, pas seulement dans le sillon rhodanien, il y a malgré tout une tentation qui d'ailleurs est renforcée systématiquement par le président turc Erdogan à chaque fois qu'il vient faire son show communautariste en France. Donc, si vous voulez, il faut presque, j'ai envie de dire qu'il faut doubler dès maintenant cette tentation qui est en train de monter, et elle monte d'autant plus qu'avec Internet, la libération de la parole complotiste et conspirationniste est telle qu'il faut absolument avoir un coup d'avance, d'où le maintien du rythme de ces assises antinégationnistes, et pas seulement d'ailleurs à PSB, puisqu'hier, j'avais des étudiants de Sciences Po. Alors, il y avait une majorité d'étudiants, c'est très important pour moi, des gens qui, a priori, connaissent pas bien ou qui n'ont pas eu le temps, ou dont ce n'est pas le cœur de métier ou le cœur d'études de travailler sur ces questions-là. Il y avait aussi un petit quart de personnes qui n'étaient pas des étudiants, et à chaque fois, c'est diffusé sur papier, c'est diffusé sur Internet, et c'est donc également, bien évidemment, organisé dans le cadre de lieux. Alors hier, très prestigieux, l'hôtel de ville, demain ailleurs, parfois c'est chez nous, dans notre école, mais l'important, c'est que ça se fasse.
Alors nous parlons aujourd'hui avec Bernard Brunteau et Cette Papazian de ces expressions de négationnisme et l'histoire du génocide d'une manière générale, pour comprendre la nécessité de ce combat que vous aussi vous menez. J'ai besoin juste de rappeler que c'est peut-être la seule initiative qui, je le disais tout à l'heure, qui est devenue une vraie tradition. Tous les ans, sans faute, vous organisez ces assises. C'est une première mondiale. Est-ce que je me trompe ?
Vous vous trompez pas. Je dis comme ça, c'est très impressionnant. Mais en réalité, ce qui est très consternant, c'est que ça n'est pas existé. Enfin, c'est que ça n'existait pas jusqu'à présent. Donc oui, bien sûr, c'est une première. Oui, une première mondiale. Alors c'est encore modeste. Bien que nous ayons systématiquement des partenaires à la fois dans les médias, des partenaires bien évidemment moraux et mémoriels, je pense évidemment au mémorial de la Shoah qui est systématiquement partenaire, et puis des associations antiracistes comme SOS Racisme évidemment, des organisations étudiantines comme l'UEJF, dont le président est intervenu hier en introduction de manière extrêmement forte, pour lier en quelque sorte cette communauté de destin entre les Juifs et les Arméniens, et d'autres médias comme, je voudrais aussi la citer quand même, le citer l'histoire, le mensuel L'Histoire, qui est d'une très très grande, d'un très haut niveau, qui était partenaire et qui a consacré une pleine page il y a un mois de cela à cette initiative. Il y a aussi Toute l'Histoire TV, donc sur l'un des bouquets, une chaîne là aussi historique d'un très bon niveau. Bref, vous avez effectivement tout le panel, j'allais dire, des gens qui sont concernés, directement concernés par ces assises, sachant, si vous le permettez, cher Vatan, que les prochaines, nous reprenons notre rythme de janvier. Les prochaines auront lieu le dimanche 24 janvier 2016. Elles porteront sur les crimes de génocide et leur négation dans le monde arabe, avec notamment le Darfour dans les années 2000 et aujourd'hui Daesh en Irak et dans le nord de la Syrie. Et le partenaire, les deux partenaires principaux seront l'institut de sondage Ipsos, puisque Brice Teinturier nous fera l'amitié, son délégué général, de venir remettre les résultats d'une enquête qui aura été faite par Ipsos sur l'ensemble de la population française concernant la connaissance ou la méconnaissance des génocides, la différence entre un génocide, un crime de masse, un massacre, etc. Et puis il y aura comme deuxième partenaire un grand hebdo, on est en négociation donc je vous donne pas encore le nom, mais l'un des grands hebdos nationaux français, et voilà, pour essayer à chaque fois, chaque année, de donner un peu plus de d'aura, de faire du buzz, comme disent les Jones. Et puis dernier mot, je voudrais vraiment remercier, et l'un des piliers du colloque d'hier se trouve ici à cette antenne, Bernard Brunto, qui est un universitaire de très haut vol, et évidemment mon ami c'est à pas patient, pas besoin de la présenter à nos auditeurs. Elle est à la pointe du combat. Et Bernard, lui, en tant qu'intervenant, nous a permis, et je pense que ça fera peut-être la transition avec vos autres questions, Martin, juste je dis d'un mot, de fixer avec énormément de pédagogie la genèse. Il faut bien comprendre, et vos auditeurs le savent, je voudrais le répéter, un génocide, ce n'est pas un accès de fureur spontané d'une bande d'ivrognes sortant d'un match de foot perdu. Ce n'est pas comme ça. Un génocide, ça s'organise. Le génocide des Arméniens a été organisé. La répétition générale avait eu lieu dès les années 1894-96, exactement ce qui se passera par la suite avec le nazisme et le Hutu Power contre les Tutsis. Et donc, c'est quelque chose qui était très important de rappeler. Et je le remercie, il est ici présent, Bernard Brunto, de l'avoir fait de manière remarquable et universitaire.
Je sais que vous allez nous quitter rapidement, mais il faut qu'on parle des autres intervenants qui ont eu Yves Ternon par exemple, Vincent Duclerc, Claire Moradian pour la première table ronde qui parlait des origines, même si ce sujet a été repris plus tard, nature et mise en place de la négation. Alors on a eu vraiment des exposés très intéressants, très riches, avec beaucoup d'enseignements, Vincent Duclerc et Yves Ternon sur à la fois le négationnisme qui touche les Arméniens, que le négationnisme d'une manière générale. Et on a appris aussi comment la recherche aujourd'hui commence à travailler l'histoire du génocide pour combattre justement le négationnisme par le biais de la recherche académique.
Oui, ça a été fait de manière magistrale. Bon, tout le monde ici connaît Yves Ternon, Claire Moradian et Vincent Duclerc, bien évidemment. Ce qui est important de rappeler, c'est que la recherche, comme le disait d'ailleurs Serge Klarsfeld lors des assises précédentes, il disait, vous savez, nous, dans les années 50-60, on pensait, c'est Klarsfeld qui dit ça, hein, qu'il y avait eu 100 000 juifs de déportés. Eh bien, grâce à la recherche, on a découvert qu'il n'y en avait eu que 76 000. Et il avait ajouté avec un petit sourire ironique, et je ne suis pas négationniste. C'est-à-dire que par la recherche, par le sérieux universitaire, par le sérieux historien et historique, on choisit la voie la plus efficiente, me semble-t-il, pour combattre le négationnisme. Il n'y a pas un seul historien sérieux digne de ce nom, diplômé en tant qu'historien, qui soit réellement négationniste. En fait, les négationnistes, ce sont des imposteurs. Et on combat l'imposture, parfois peut-être par des lois, c'est fait tout l'objet d'un débat, mais vous savez très bien que je suis favorable à la pénalisation de la négation du génocide arménien, comme ça a déjà été fait avec la loi Guesso pour la négation de la Shoah, en 90. Mais enfin, on peut toujours en discuter, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est que il faut absolument valoriser la recherche, il faut encourager la recherche historique et universitaire, parce que c'est le meilleur moyen, le plus civilisé, de combattre l'imposture négationniste.
Alors, le deuxième panel touchait le génocide arménien et le droit international. C'est là que vous interveniez, Bernard Brunetto. Et aussi, il y a eu cette phase, on va dire, juridique de la compréhension de la négation, le négationnisme d'une manière générale dans le droit local et international. Et c'est là qu'intervenaient Rafik Alfayan et Armen Kumjian, tous deux juristes. Et puis, en dernière partie de cette journée de jeudi, on a parlé de bilan et de perspective avec Ara Touranian, Gajminasian et Ali Kazancıgil.
Oui, je voulais absolument que figure à ce colloque une ou deux personnalités, ou deux ou trois personnalités, parce que j'en ai contacté plusieurs, turcs, et il fut le seul à pouvoir, les autres m'ont répondu très favorablement, je pense notamment évidemment à Ahmet İnsel, mais, et à d'autres aussi, mais il ne pouvait pas être à ce colloque. Et je suis très heureux qu'il ait parlé, d'ailleurs il a parlé en dernier, et ça a montré aux étudiants qu'une partie de la société turque se réveille, c'est pas un mot péjoratif,
Après tout, quand vous êtes soumis à une propagande d'État pendant des décennies, il est même très compliqué. Il est même, si vous voulez, c'est très honorable et très valeureux de la part de simples citoyens turcs que d'aller gratter, d'aller chercher un petit peu d'autres sources que celles qui sont prodiguées par l'État depuis maintenant pratiquement 100 ans. Et il y a un vrai réveil de la société, d'une partie en tout cas de la société turque. Et lui en a été à la fois l'incarnation, Ali, mais également il l'a exprimé. Et il a dit dans quelle mesure il était modérément optimiste quant à la reconnaissance un jour par la Turquie du génocide arménien, mais vous comprenez bien que ça signifie que pour cela il faudrait une poussée sociale et morale citoyenne très forte. On n'en est peut-être pas encore là, mais au moins les prémices existent. Il l'a dit, il l'a bien dit, et c'était donc très important effectivement d'avoir à la fois des juristes, des historiens, et mais également donc un acteur et un universitaire de la société turque.
Merci Frédéric Rancel. Merci d'avoir organisé ces assises. Merci d'avoir consacré la 5e édition au négationnisme du génocide arménien. Je vous dis à très bientôt.
Au plaisir.
Et nous poursuivons avec nos invités, Bernard Brunetto et Seta Papazian. Monsieur Brunetto, donc, parlons d'une idée très importante. Ça a été dit tout à l'heure, quand on parle de génocide, on a l'impression que le 23 avril, on a décidé, le 24 avril, on a commencé. Alors qu'aujourd'hui, on a la preuve que quelques mois avant, il y a eu des rencontres secrètes, des réunions secrètes en Turquie, à Istanbul. Mais ça va beaucoup plus loin que cela, l'organisation du génocide arménien.
Oui, parce qu'il y a des précédents qui apparaissent comme justement des étapes vers un génocide total. On réévalue à ce titre les massacres de 1894-96. Et aussi les massacres de Sassoun en 1903-1904, qui apparaissent déjà comme fortement organisés. Donc, il y a des plans une concertation en vue du meurtre de masse, et d'une certaine façon, l'événement de 1915 est le point d'aboutissement de ces essais, en quelque sorte. Par ailleurs, il y a une idéologie aussi qui préexiste à la mise en place d'un ciblage d'un groupe communautaire comme les Arméniens, une idéologie qui s'inscrit dans le nationalisme de son époque et mêlée, teintée de darwinisme social, dans la mesure où nombre de dirigeants jeunes turcs ont appris en quelque sorte cette idéologie, cette vulgate idéologie en Europe, hein, et notamment certains en Allemagne, voire même en France.
Rappelez pour nos auditeurs, le darwinisme social, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors c'est une application, en fait, à la société et aux relations internationales, des théories de Darwin. C'est une vulgarisation des théories de Darwin appliquées aux sociétés humaines, c'est-à-dire que la société ou les relations internationales sont un champ de force où triomphe le plus fort et où disparaît le plus faible. Donc c'est une lutte pour la survie. Et donc, ces dirigeants nationalistes ont lu, en quelque sorte, la scène moyenne-orientale comme une sorte de lutte pour la survie, où la nation turque devait, pour survivre, eh bien éliminer celle qui lui faisait ombrage, notamment des communautés arméniennes, en liaison supposée avec la Russie, qui était l'ennemi mortel de l'Empire ottoman.
Alors, vous dites qu'il y a eu des tests 1894-96. Voilà. On peut dire aussi qu'il y a eu un autre test, c'est les massacres d'Adana en 1909.
Hein, donc il y a, oui, 1896-1903-1909, il y a une étape. Alors ce qui donne sans doute une facture plus moderne, entre guillemets, si vous voulez, l'événement 1915, c'est qu'il y a effectivement là une idéologie plus constituée, un parti, hein, dans la mesure où le comité Union et Progrès est au pouvoir avec ses relais, et puis aussi un état plus technologique d'une certaine façon, dans la mesure où le télégraphe, le train, etc. sont des éléments, une rationalité bureaucratique qui existait sans doute moins en 1894-1896.
Mais la méthode n'est pas la même. Peut-être à cause de cette technologie avancée.
Voilà, surtout qu'en 1894-96, on déléguait parfois aussi l'exécution des tribus, par exemple. Là, il y a une plus grande centralisation, et une rationalité qui annonce, je crois, des événements postérieurs dans le XXe siècle.
Alors justement, s'il y a ces moyens industrialisés de massacrer, oui, si je puis dire, cela signifie que le train, le télégraphe et tous ces outils devaient être préparés, rodés, organisés, d'où l'idée d'une préparation.
Tout à fait, d'une intention et d'une réflexion, je dirais, sur la démographie ou la société turque. Dans la mesure, il faut aussi situer ça dans un contexte. Hein, c'est les pertes de territoires et de population de l'Empire ottoman dans la partie européenne, et donc le transfert et le repeuplement de ces populations turques musulmanes d'Europe vers l'Anatolie. Et donc il y a une sorte de d'opération d'ingénierie sociale, hein, c'est le terme qui est employé par certains chercheurs, où finalement les populations sont des variables, hein, où on déplace celles-ci, et où certaines populations sont considérées comme superflues dans la réorganisation de l'Empire à ce moment-là. Et les Arméniens, les minorités chrétiennes plus largement, font partie de ces populations superflues. Donc il faut aussi resituer cela dans ce contexte-là, donc d'une intention, si vous voulez, de refondation en quelque sorte de l'Empire ottoman comme un État-nation moderne, c'est-à-dire ethniquement homogène et culturellement homogène. Et donc ça, c'est une, voilà, c'est 10-15 années, vous voyez, de préparation, je dirais, intellectuelle.
Oui, mais on peut rétorquer en disant que s'il n'y avait pas eu les pertes de territoire dans les Balkans, quelques échecs dans les années 12-13, peut-être que les priorités de ce groupe qui gouvernait l'État turc à ce moment-là, l'Empire ottoman, n'aurait pas été les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de génocide ou intention ou préparation même s'il n'y avait pas eu ces pertes. Donc c'est le changement de priorité qui a causé probablement ce déclenchement.
Sans doute, mais il ne faut pas oublier non plus la relation conflictuelle avec la Russie, hein, depuis le début du 19e siècle, même. Voilà. Depuis même le 18e siècle, et qui s'accentue effectivement à partir de 1878. Et donc, les communautés arméniennes et chréniennes servent de bouc émissaire dans cette relation, si vous voulez, par rapport à la Russie, surtout qu'elles sont installées dans des régions supposées centrales dans l'idéologie pan-touranienne, c'est-à-dire l'Anatolie orientale, donc qui est à la frontière de l'Empire russe. Donc il y a plusieurs effectivement paramètres. Il y a c'est un très, très beau titre d'un universitaire américain, Daniel Bloxham, qui a parlé du grand jeu du génocide, hein, qui applique cette notion de géopolitique de grand jeu, hein, ces relations entre grandes puissances, hein, à partir de l'expression de Kipling de la fin du 19e siècle. Hein. C'est-à-dire que le génocide peut aussi s'interpréter à partir de la lecture des relations internationales, au moins telles qu'elles ont été vues par les dirigeants jeunes turcs.
Justement, à cette époque, on parlait beaucoup de pantouranisme, on parlait aussi de panturquisme, et justement il y avait un débat à l'intérieur de la société turque. Est-ce que on va turquifier la société de l'Empire ottoman, ou on va créer quelque chose de plus vaste, c'est-à-dire le regroupement de tous les peuples turcophones au-delà des frontières de l'Empire ottoman?
Alors, il faut voir que les régions ottomans sont à la recherche d'un ciment pour l'Empire. Hein. Il y a eu la conception ottomane au départ, c'est-à-dire l'allégeance à un État central, hein, l'État impérial, si vous voulez. Et puis, il y a eu la tentative
Mais qui ne marchait pas depuis pas mal de temps.
Qui ne marchait
déjà.
Pas, d'où la tentative de l'islamisme, d'une certaine façon, l'islam devenant la référence. À partir de là, des minorités non musulmanes sont évidemment en état d'infériorité ou sont ciblées. Et puis, il y a la dernière version, à partir justement de ce noyau d'idéologue ou de dirigeant, de futur dirigeant jeune turc, c'est-à-dire que le ciment, lui, c'est une autre conception de la nation qui sera ethno-culturelle, voire ethno-raciale, si vous voulez, à partir du mythe, effectivement, de la nation touranienne, de son origine. Alors, effectivement, qui peut être, certains étaient favorables à quelque chose de plus limité, ça ne concernait essentiellement, effectivement, la partie, enfin, anatolienne, si vous voulez, d'autres, effectivement, avaient une conception plus transnationale, comme Enver Pacha, par exemple, hein, qui imaginait, effectivement, un empire touranien plus vaste qui intégrait les régions du Caucase, etc.
Mais dans tous les cas, les Arméniens devaient être victimes de ces deux idéologies.
Ah, de toute façon, que ce soit la logique islamiste, que ce soit la logique pantouranienne, évidemment, ils sont de trop. Hein. C'est la population superflue par excellence, comme a pu le dire Hannah Arendt.
Alors, vous parlez des origines du génocide, la genèse de l'idée, de le pourquoi ou la nécessité pour les Turcs de génocide. et les Arméniens. Parlons des origines des bourreaux, parce que il est très important de savoir qui a perpétré, qui a eu l'intention de commettre ce génocide, sachant que dans le Comité Union et Progrès, il y avait un vrai débat, non pas sur est-ce qu'on commet un génocide ou pas, mais comment commettre ce génocide, est-ce qu'on fait des massacres ou on organise juste une déportation, et finalement c'est la voie la plus radicale qu'il a emportée avec Béhadine Chakir et Talat évidemment. Qui sont ces responsables du génocide? D'où viennent-ils? Pourquoi ils ont eu cette idéologie très marquée anti-arménienne?
Je crois qu'il y a un groupe d'officiers au départ qui sont obsédés par la décadence de l'Empire. Je crois que finalement on retrouve ces logiques de radicalité aussi dans le nazisme, dans d'autres. C'est toujours le constat d'une décadence, réagir à la décadence et refonder la nation. C'est-à-dire que là on a un groupe d'hommes, le cercle noyau dur du Comité Union et Progrès, qui sont animés par une idéologie qu'on peut appeler palingénésique, de régénération profonde de la nation. Et donc ces hommes utilisent des outils conceptuels, des outils intellectuels qui sont ceux de leur époque. Je crois qu'il y a eu des travaux très intéressants pour montrer que justement que ces hommes sont le produit de cette époque au carrefour du nationalisme et du darwinisme social que nous évoquions tout à l'heure.
Donc, et quelle a été l'influence de l'Europe sur ces hommes-là?
Ah oui, c'est une influence, je dirais, à la fois française et allemande. Une conception ethnique de la nation qu'ils ont pu retirer de l'Allemagne, du nationalisme allemand de la fin du XIXe siècle, et aussi une autre conception française de l'État français, je dirais, jacobine, centralisatrice et relativement autoritaire, si vous voulez. Et les deux, finalement, confluent vers un processus d'homogénéisation totale de la future nation, du futur État-nation turc, si vous voulez, absolument centralisé et brisant toute différence, mais évidemment à une intensité bien plus forte que celle de la Troisième République française, mais aussi une conception homogénéitrice fondée sur une ethnie, voire sur une race, si vous voulez, puisque le mot est utilisé dans ce discours. Donc je crois qu'on a confluence d'un groupe d'officiers, de jeunes officiers obsédés par la décadence de l'Empire, et puis des intellectuels qui sont finalement à l'école d'une certaine Europe, qui produit elle aussi des outils intellectuels pour penser la nation de façon exclusive.
Est-ce pour cela que les Européens, à un moment donné, pensaient vraiment trouver en ces gens-là leur bon représentant de cette idéologie?
Mais disons qu'en 1909, si vous voulez, autour de 1909, au lendemain de la révolution jeune turque, si vous voulez, des gens qui parlent avec référence de la révolution française, on peut imaginer qu'ils sont sur une voie finalement moderne et démocratique,
et même d'ailleurs des organisations comme Erdogan qui parle de l'entrée à l'Union européenne.
Oui, mais même les organisations arméniennes du temps ont cru effectivement dans cette nouvelle Turquie qui pouvait se lever, où finalement tous les citoyens allaient être égaux sur un modèle révolutionnaire français. Mais là, dérapage était venu très très très.
Alors
vite,
justement, par rapport à Kemal Atatürk qui a suivi le chemin tracé par les jeunes Turcs tout en se réclamant d'être d'une autre école idéologique, en tout cas, il n'a pas voulu porter cet héritage Kemal Atatürk, mais on voit que on est dans la même logique de construction d'un État-nation.
Tout à fait, il appartient à la même génération, il a les mêmes outils intellectuels que Enver, Talat ou Jamal, et par ailleurs la modernisation autoritaire de la Turquie de l'entre-deux-guerres s'est faite au détriment d'autres groupes, les Kurdes notamment, à partir de 1928 et puis ensuite autour de 1938, subiront ce processus d'homogénéisation qui est de même nature finalement. Non, on est plus dans une continuité, même si pour des raisons évidemment tactiques et politiques, Mustafa Kemal s'est évidemment distancié de ses collègues, si vous voulez. Il n'a pas le même niveau de responsabilité qu'eux par ailleurs. Mais je crois qu'il y a une continuité idéologique entre un kémalisme autoritaire et puis ce qu'était finalement l'idéologie profonde des jeunes Turcs.
Alors quelle est la place du racisme? Non pas l'idéologie. Vous avez parlé tout à l'heure de géopolitique en disant que massacrer les Arméniens, c'était pour créer une entité forte face aux ennemis qui étaient pour l'Empire ottoman à cette époque-là, essentiellement la Russie, on va dire, à la frontière de cet empire. Mais il y a aussi un autre facteur. Les Arméniens faisaient partie de la structure sociétale, évidemment avec beaucoup de discrimination. Vous l'avez rappelé, l'islamisme de l'époque imposait des règles très évidentes. Donc les Arméniens étaient des sous-citoyens en quelque sorte. Mais comment s'exprimait le racisme anti-arménien?
Alors, c'est l'idée qui germe peu à peu, si vous voulez, que les communautés arméniennes ou assyro-chaldéennes aussi sont l'ennemi intérieur, si vous voulez. Hein. L'ennemi intérieur, dans le cadre, effectivement, de la relation conflictuelle avec la Russie ou avec l'Europe, hein, dans la mesure où des zones d'influence se créent, il y a une pression, effectivement, sur l'Empire ottoman. Mais dans une société multiconfessionnelle, multiethnique, eh bien, effectivement, cette lecture darwinienne de la société s'impose chez certains, pas chez tous, effectivement, pour racialiser, avec des guillemets, si vous voulez, les groupes différents. Alors, c'est pas du tout un racisme biologique à coloration scientifique, entre guillemets, tel que les nazis ont pu effectivement l'inventer. On est dans quelque chose de beaucoup plus fruste, si vous voulez, mais il y a une différenciation, une ethnicisation, si vous voulez, de la différence confessionnelle, quoi, hein, qui apparaît là assez nouvelle, si vous voulez, à partir au tournant des années 1900.
Alors, il y a des historiens qu'on va Adrian qui nous rappelait comment dans les années 1911-12 des responsables jeunes turcs, dont Talat par exemple, invités dans des écoles arméniennes parce que c'était les gouvernants de l'époque, et puis les communautés invitées étaient ravies d'avoir le chef d'État, le chef de gouvernement, le ministre de l'Intérieur être à une cérémonie communautaire. Et quand ils voyaient comment ces jeunes faisaient du théâtre, comment ces jeunes faisaient maîtriser une langue ou plusieurs langues, pareil dans le livre d'Yves Ternon et Raymond Kevorkian, on voit des citations de Talat Pacha qui évoquent très clairement le fait qu'il considère que les Turcs sont inférieurs, d'après ce que lui-même dit, par rapport aux Arméniens qui sont plus instruits, tout simplement. Est-ce que c'est aussi une des facettes de l'expression raciste? Parce que vous avez dit, ça n'est pas sur les bases biologiques qu'on a créé ce racisme, mais voilà, c'est un paramètre qui est quand même important.
Une dimension qui joue dans la mesure où, pour un certain nombre de ces hommes, l'Empire ottoman ou la Turquie en puissance est une nation sans bourgeoisie. La bourgeoisie est halogène, d'origine grecque, arménienne, chrétienne plus largement, etc. Et donc il y a cette idée qu'il faut créer à tout prix une bourgeoisie turque, une bourgeoisie musulmane. Et on trouve toujours souvent ce processus. On reverra au Rwanda, etc. C'est l'idée que la nation manque de cadre et que les cadres sont halogènes. Et donc ça, c'est un élément d'un processus génocidaire. Alors il y a un autre élément qui joue, c'est la guerre quand même. C'est l'entrée dans la guerre, qui est toujours un élément de radicalisation de l'idéologie et aussi une opportunité pour réaliser des choses qu'on ne peut pas réaliser en temps de paix. Je crois que des hommes comme Enver ou Talat sont radicalisés par l'entrée en guerre et par les premières défaites aussi qu'ils subissent face à la Russie, notamment à Sarikamish en janvier 1915. Ça, c'est un événement quand même qui hâte le processus.
Alors c'est vrai que là, on cherchait aussi des boucs émissaires pour expliquer un peu sa propre défaite. Mais qu'en est-il des territoires? Parce qu'aujourd'hui, tout le débat, et on l'a vu suite à la guerre, le traité de Sèvres, puis le traité de Lausanne, tout est question de territoire finalement, pas seulement de peuple et de démographie.
Oui, dans la mesure où l'Anatolie est considérée comme le berceau de Tourane, en quelque sorte, c'est le cœur symbolique central de l'Empire et du futur État. Donc c'est la logique du territoire pur, épuré des populations.
Mais c'est aussi en même temps le berceau de la civilisation arménienne.
Tout à fait, mais
d'où le conflit.
D'où le conflit, effectivement. Mais je crois que ça va au-delà du territoire, parce que finalement, Si vous dites que c'est le territoire l'enjeu, là on serait plutôt dans un processus, ce qu'on appellera plus tard l'épuration ethnique, si vous voulez, nettoyage ethnique, hein, où finalement il suffit de transférer une population. Là, on est dans autre chose. Il faut détruire une population. C'est-à-dire que là, on est dans l'essentialisation de l'ennemi. C'est pas seulement son transfert. Et c'est pour ça que, justement, une des logiques négationnistes turques, c'est de dire qu'on était seulement dans une logique de transfert de population, sans doute regrettable, avec effectivement une mortalité parce que ça se déroulait dans des mauvaises conditions, etc. Mais qu'on n'était pas dans un génocide. Le génocide, l'enjeu, c'est la population. C'est la destruction de la population. C'est pas le territoire. Et donc là, on est, vous voyez, dans...
Alors que là, on a clairement les deux motifs et les deux résultats sont là.
Qui se combinent. Mais je veux dire qu'il peut y avoir une version négationniste de dire, effectivement, c'est un nettoyage ethnique. Mais c'est pas un génocide. Non, il y a les deux. Il y a effectivement l'enjeu et le territoire, plus la destruction d'un ennemi. Hein. Donc, faire attention, c'est pas seulement le territoire.
Alors aujourd'hui, quand vous suivez un peu l'histoire du génocide après le génocide, on voit clairement que il y a l'expression négationniste qui a pris ses racines au moment même de l'exécution du génocide, et justement la question de l'effacement de la trace et de la présence arménienne sur ce territoire fait partie. Vous le disiez, de la naissance, de l'intention, mais aussi il y a une suite donnée. Donc l'État, la République turque moderne est dans la continuité de cette logique négationniste et d'effacement, d'éradication d'une, pas seulement d'un peuple, mais aussi de sa civilisation.
Ah oui, c'est l'effacement de la mémoire d'une trace et de la mémoire d'un peuple. Et c'est très significatif. Moi, j'ai souvent voyagé en Turquie orientale, parce que ça m'intéressait en tant qu'historien, et sur ma carte, des emplacements d'églises arméniennes, de basiliques arméniennes dans cette Anatolie orientale. Je me souviens de l'une d'entre elles près de la frontière iranienne, dont j'avais des photos anciennes, si vous voulez, et bien il ne restait plus rien. Donc il y a un effacement qui a été, bon, le temps, mais volontaire aussi, puisque cette basilique, en l'occurrence, elle avait été dynamitée dès 1900, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Vous voyez. Donc il y a effectivement ce qu'on a appelé aussi pour la Bosnie, le mémoricide. C'est-à-dire l'effacement, effectivement, de la mémoire d'une société, d'une civilisation. Il n'y a jamais eu, finalement, d'Arménien. Donc ça, c'est un des premiers éléments du négationnisme qui est intervenu assez tôt, en fait, dès l'entre-deux-guerres.
Et donc aujourd'hui, l'histoire, c'est une évolution. L'histoire, c'est le vécu également. Donc quand vous suivez l'évolution du négationnisme de l'État turc, est-ce que on va pas parler ni d'espoir ni d'imaginaire, mais en tout cas, est-ce que vous avez l'impression que cette évolution dans le langage négationniste, c'est finalement une impasse pour la Turquie, parce que le monde le reconnaît, les Turcs le reconnaissent, hein, même Erdogan, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a eu génocide. D'ailleurs, parfois, dans les milieux nationalistes, ils en sont fiers. Le ministre de la Défense, Küçük, à l'ambassade turque à Bruxelles, il y a 5 ans, racontait comment, grâce à ce génocide, nous avons construit l'État moderne turc. Finalement, c'est ça la réalité. Justement, la question entre la réalité et le discours négationniste, qu'est-ce qui est en train de changer en Turquie ?
Bon, il y a un négationnisme, si vous voulez, plus intelligent, entre guillemets. Hein, on peut nier l'intention, on conteste les chiffres, mais c'est surtout, je crois, de diluer la notion de génocide dans une forme de rationalisation, la guerre, les violences croisées, le conflit de deux nationalismes, hein, voilà. C'est aussi la banalisation de dire que finalement, on est dans la logique ou dans la continuité des massacres du Proche-Orient, hein, si vous voulez, sans raison particulière, si vous voulez, c'est la violence structurelle, finalement, du Moyen-Orient. Et puis, alors, sur quoi je suis intervenu hier, il y a cette idée que, et là, j'en étais le témoin il y a encore quelques semaines, puisque nous avions à l'université de Rennes un professeur invité turc de l'université Galatasaray, qui a passé une semaine, un historien, chez nous, un homme charmant par ailleurs, et qui est intervenu une fois auprès de mes étudiants, et il y a eu inévitablement une question sur la question du génocide arménien. Et là, sa réponse, c'était effectivement celle-ci, c'était qu'on ne peut pas parler de génocide, puisque le génocide, c'est un concept ahistorique, trop juridique, qui a été inventé, qui a été créé pour qualifier la Shoah, et donc qui ne peut pas s'appliquer à un événement totalement différent, qui est celui de 1915. Et là, j'avais effectivement devant moi un historien qui, libéral par ailleurs, et un opposant à Erdogan, etc., vous voyez, mais qui refusait l'emploi du terme parce que, à ses yeux, il était inadéquat. Alors, c'est ce que j'ai voulu montrer hier lors de la journée, de montrer que le concept, la genèse de ce concept est liée, au contraire, à l'événement de 1915, hein, chez Lemkin, hein, qui va créer ce terme en 44. Mais l'idée est déjà, et la notion et le principe de directeur de cette notion sont présents chez lui dès les années 20.
C'est un papasien. Vous travaillez depuis pas mal d'années sur la présence et contre la présence, j'allais dire, des expressions négationnistes sur Internet. Et c'est vrai que, d'ailleurs, jeudi, il a été évoqué par le représentant des étudiants juifs de France que, ô combien Internet faisait mal au combat antinégationniste, parce que il suffit d'être malin, il suffit d'y mettre les moyens. Et quand on tape sur Google la Shoah ou le génocide arménien ou Yves Ternon, on tombe sur une information qui dit que Yves Ternon, finalement, c'est un mauvais historien. Et en dévalorisant la compétence de cet homme, on dit finalement ce qu'il a écrit sur le génocide arménien, c'est une bêtise. Donc voilà ce qui se passe sur Internet. Quelles sont les actions, si on prend une évolution sur 10 ou 15 ans, quelles sont les actions visibles de ceux qui veulent nier pour faire passer leur message sur Internet?
Bon, tout d'abord, il faut bien préciser que c'est un négationnisme d'État, donc diffusé avec les moyens d'un État, et même de deux, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Ancel, depuis quelques années, il y a l'Azerbaïdjan qui est très très actif sur la question. Donc effectivement, il y a tout un panel de moyens qui sont mis en œuvre. Ils ont été étudiés au départ. Je crois que la première personne qui a fait une étude sur le négationnisme du génocide arménien sur Internet, c'est Gilles Carmassin qui avait publié en 2003 une étude qui s'appelait « La négation du génocide arménien sur Internet », qui avait été donc publiée dans la revue d'histoire de la Shoah. Donc à l'époque, c'est vrai que c'était encore assez limité. Internet n'était pas aussi utilisé, aussi prégnant que dominant que maintenant. Il y avait essentiellement le site Tête de Turc, qui avait été qualifié donc par une commission nationale des droits de l'homme comme un site raciste. Donc voilà, ça se limitait essentiellement à ça. Et donc Gilles Carmassin avait bien stipulé que à chaque fois qu'on tapait génocide arménien sur Internet, et c'est encore le cas maintenant, ont tombé sur allégations ou assertions arméniennes, prétendu génocide arménien, soi-disant génocide arménien, en anglais so-called genocide, etc. Donc ça c'était la genèse, on va dire, du mouvement négationniste sur Internet. Il y a depuis quelques années...
Moi je voudrais juste ajouter que la commission turque Asil Kaka, c'est cette commission qui a été présidée à un moment donné dans les années 2000 par Abdullah Gül, puis par d'autres par la suite, qui orchestre un peu le négationnisme à travers le monde, a comme titre en turc le soi-disant, c'est-à-dire la commission qui combattrait le soi-disant génocide arménien.
Oui. Ils combattent quelque chose qui n'existe pas, c'est assez drôle d'ailleurs. Oui. Voilà, si on s'en réfère à leur titre. Donc, en fait, depuis quelques années, il y a un site qui est vraiment dominant sur l'Internet. En tout cas, là, je vais me limiter à l'Internet francophone. C'est le site Turkey News, qui est vraiment très, très virulent. Et vous faisiez justement référence aux insultes qui concernent Yves Ternon, j'en avais une qui vraiment vraiment était insultante envers Yves Ternon et envers Claire Mouradian. Je vais la lire. Les héritiers des propagandistes haineux que compta la Première Guerre mondiale, tirait l'éternon, les Mouradians, qui dans un pays civilisé seraient classés à la droite de M. Le Pen, ont droit à tous les égards médiatiques quand ce n'est pas à la surprenante complaisance d'historiens non spécialistes de la Turquie. Voilà, déjà là, on a... alors, ce site Turkey News est quand même spécialiste, en tout cas les animateurs qui écrivent sur ce site-là, pour dénigrer, effectivement, toutes les personnes, arméniennes ou non, en général les historiens, qui reconnaissent le génocide arménien, qui ont travaillé sur le génocide arménien. Récemment, en réaction à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant Perinçek, ce site-là a même critiqué Raphaël Lemkin en disant que c'était un piètre juriste. Enfin, voilà, je veux dire, personne ne trouve grâce à leurs yeux, y compris, il y avait aussi une assertion contre Pierre Vidal-Naquet. Enfin, je veux dire, où s'arrête la prétention des gens qui sont derrière?
Il y a une autre question qui s'impose quand on parle d'Internet, c'est la portée d'Internet. Donc, ces gens-là, ils touchent qui? Quelle cible, quelle tranche d'âge, comment leur stratégie évolue par rapport à ce ciblage?
C'est très important, puisque on sait qu'Internet, à l'heure actuelle, est quand même le vecteur d'information pour toute une tranche de jeunes, et même de moins jeunes. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher des informations sur Internet et qui croient dur comme fer tout ce que... Enfin, on parlait tout à l'heure de thèse conspirationniste. Et donc, voilà, le génocide arménien est un mensonge international. Ça, c'est le credo du comité Talaat Pacha. Ça fait partie aussi des thèses conspirationnistes qui peuvent se diffuser allègrement via Internet. Donc c'est très très important. Et là, je serais un petit peu, même beaucoup moins optimiste que Frédéric Ancel, qui disait tout à l'heure qu'il n'y a pas tellement de négationnisme du génocide arménien en France chez les Français. Je pense qu'au contraire, c'est très dominant, en tout cas via ces sites qui sont très bien relayés sur Internet non seulement, mais sur les réseaux sociaux, qui ont également une radio web qui est plus ou moins donc affiliée à ce même site.
Mais vous parlez des Turcs en France et non pas des Français d'une manière générale.
Ils sont quand même français.
Générale. Oui, j'entends. Il y a quand même une niche qui propage ces idées. C'est pas la France ou l'opinion publique française.
Mais il y a également, malheureusement, alors pas de manière aussi virulente et on va dire primaire que les textes qu'on peut trouver sur ces sites-là, mais il y a également beaucoup d'intellectuels français malgré tout qui relayent cette alors volontairement ou involontairement cette propagande.
Alors justement, il y a une question psychologique quand on parle d'Internet, parce que vous l'avez dit, on peut tout prendre pour argent comptant. On se dit tout ce que je trouve sur Internet, ça doit être à peu près vrai et je peux utiliser cette information. On n'a pas le temps, on ne vérifie pas, et puis tout le monde n'est pas chercheur et historien. Donc, on prend l'info et on la dispatche. Maintenant, la question, c'est comment se prépare l'information pour qu'elle soit crédible?
Vous voulez dire comment se prépare l'information négationniste?
Oui.
En général, elle est prise, c'est souvent des copier-coller à partir des sites étatiques du gouvernement turc, le site du ministère des Affaires étrangères. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais celui de la culture également mettent des pages et des pages de négationnistes en français, en anglais, en
pour
turc,
dire quoi,
bien sûr.
Pour dire quoi?
Pour expliquer, en fait, ce que disait Bernard Brunetaut tout à l'heure, voilà, ce n'est pas un génocide, d'abord c'est les Arméniens qui ont massacré les Turcs, et puis voilà, il y a tout un argumentaire qui est prêt sur mesure. D'autre part, il y a un jeune français, pour le coup vraiment français, qui fait donc qui prépare une thèse en histoire à Ankara. Ce jeune homme a toutes les apparences scientifiques, on va dire, du chercheur en histoire, pour diffuser vraiment des propos négationnistes. Si jamais on le traite de négationniste, il porte plainte. Puis, son argumentaire, c'est de dire, dans la mesure où le négationnisme du génocide arménien n'est pas pénalisable, donc ça veut dire que le génocide arménien n'existe pas, donc vous ne pouvez pas me traiter de négationniste du génocide arménien. Donc c'est très pervers comme approche. Tout à l'heure, vous parliez de la rhétorique turque. Davutoglu, ce qu'il a mis en place, c'est le thème de la mémoire juste. Mmh. voilà,
partagé.
Mais il appelle ça aussi la mémoire juste. C'est-à-dire, voilà, il faut dire que oui, vous avez eu des victimes, mais n'oubliez pas de dire que nous, les Turcs, nous en avons eu aussi. Et en général, tout de suite derrière, c'est regarder tous les morts qu'on a eu dans les Balkans, comme si les Arméniens avaient quelque chose à voir avec les morts des Balkans. Enfin, voilà, c'est. Et puis il oublie de dire quand même que les morts. Enfin. Il y a eu des victimes civiles turques, effectivement, mais ce ne sont pas les Arméniens qui les ont exterminés, ça, dans le cadre, pour le coup, des attaques qu'il y a pu y avoir au cours de la Première Guerre mondiale, tandis que les Arméniens ont été victimes de leur propre gouvernement. C'est quand même une différence fondamentale.
Alors, Bernard Brunetto, est-ce que vous, avec vos étudiants, vous remarquez une influence d'Internet dans leurs travaux, dans leur position, dans le contenu des informations qu'ils ont sur... Je ne parle pas que du génocide arménien, mais d'une manière générale, l'influence d'Internet pour prendre rapidement une information et ne pas la traiter, ne pas la contrôler.
Oui, c'est ce que nous constatons là depuis au moins une dizaine d'années, hein, c'est qu'effectivement les étudiants lisent moins, si vous voulez, d'ouvrages académiques ou d'ouvrages qu'ils prennent à la bibliothèque universitaire, mais qui tout simplement ils font du copier-coller à partir effectivement tout simplement de la première page. Oui. Ou sur un thème sur Internet. Et désormais, lorsque nous recevons un mémoire de master sur un sujet, on est obligé de contrôler s'il n'y a pas tout simplement plagiat.
Il y a
plagiat,
des logiciels spéciaux.
Oui, voilà, il y en a, voilà. Mais tout simplement, en prenant la première page, ça suffit. J'ai parfois vu, effectivement, des emprunts, évidemment, à des tels colloques, telles conférences, etc. Mais ils prennent n'importe quoi sans, effectivement, lecture critique, si vous voulez. Et là, effectivement, dans les cas, comme les sites négationnistes se situent souvent très, très bien, en très bonne position, évidemment, ils sont plus sensibles que d'autres.
Voilà, juste si je pouvais ajouter quelque chose. Monsieur Brunetto vient de parler des bibliothèques universitaires. Il faut savoir qu'à l'occasion du centenaire de 2015, les bibliothèques universitaires de France ont reçu des dizaines d'ouvrages négationnistes directement envoyés par Ankara. Donc voilà, il n'y a pas que les étudiants qui peuvent être piégés, on va dire, par les discours sur Internet. Il y a aussi des ouvrages réputés soi-disant sérieux qui peuvent faire illusion auprès de bibliothécaires qui ne sont pas très très affûtés sur le sujet.
Alors c'est vrai que la question du négationnisme, d'une manière générale en France en tout cas, a durant les dernières années a beaucoup plus touché la Shoah. On a vu la médiatisation de quelques affaires, de quelques humoristes ou soi-disant intellectuels, mais le génocide arménien n'est pas un sujet quotidien ou médiatisé. Est-ce que les académies, est-ce que les professeurs que vous êtes, sentez-vous le besoin, et pour certains le devoir, d'alerter, de prévenir les étudiants pour leur dire, les étudiants et au-delà, de leur dire attention, le négationnisme, c'est aussi grave que le racisme dont on parle beaucoup dans nos pays occidentaux, ou l'antisémitisme. Est-ce que cette notion d'importance existe aujourd'hui désormais?
Elle devrait, en tout cas, enfin, je sais que personnellement, je les sensibilise à ce phénomène, dans la mesure où, dans le cas de la Shoah, tout simplement, le négationnisme, c'est de l'antisémitisme. Au point de départ, c'est de l'antisémitisme. On rappelait hier, Yves Ternon rappelait Maurice Mardèche, hein, qui, après la Seconde Guerre mondiale, par référence en quelque sorte à Robert Brasillach, qui venait d'être fusillé, eh bien, met en doute immédiatement, si vous voulez, le génocide. Donc là, effectivement, c'est un cas. Mais je crois qu'il faut les initier, les sensibiliser à tous les processus négationnistes, parce que finalement il y a des grandes convergences, si vous voulez. Tout à l'heure on parlait de la victimisation, la mémoire juste, etc. L'une des racines de négationnisme néo-nazi, par exemple en Allemagne, et c'est parti de l'affaire de Dresde, en fait, le bombardement de Dresde. Les Allemands sont des victimes aussi, finalement, qui ont été ciblées par les Alliés, et donc nous avons été aussi génocidés d'une certaine façon. Donc vous voyez, il y a finalement des processus assez convergents. Je crois qu'il faut les sensibiliser à cela. La thèse du double génocide au Rwanda, effectivement l'antisémitisme négationniste et le négationnisme turc, tout à fait.
Si je peux ajouter quelque chose, donc il n'y a pas que à l'université que ce problème se pose. Il se pose dès l'enseignement dans les classes secondaires essentiellement. Donc pour le génocide arménien, c'est en classe de troisième, où il devient de plus en plus difficile dans certains secteurs d'enseigner le génocide arménien, puisque voilà, il y a une communauté franco-turque qui est malheureusement très nationaliste, presque plus que les Turcs de Turquie. Ils s'arc-boutent sur, pour eux, ce qui est vraiment vraiment leur béaba, leur credo. Donc voilà, il n'y a pas eu de génocide arménien. Et vous avez des jeunes collégiens qui empêchent tout enseignement du génocide arménien en France. Il y a même une association turque qui a déposé une QPC contre la loi de 2001. Fort heureusement, elle a été déboutée. Mais en fait, elle a été déboutée par un
tribunal et non pas par le Conseil constitutionnel.
En fait, je crois que c'est au Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui l'a débouté. Parce que, en fait, cette association franco-turque disait que c'était de la discrimination d'enseigner le génocide arménien en France, que ça, voilà, ça discriminait, c'était du racisme envers les jeunes franco-turcs, etc. Et donc, partant de là, elle voulait que soit abrogée la loi de 2001. Mais le Conseil d'État lui a signifié qu'en fait la loi de 2001 n'avait pas de portée juridique, c'est-à-dire que c'était juste une loi déclarative.
Et mais donc, voilà, c'est un exemple extraordinaire. Si on parle à des gens qui ont une naïveté de penser que c'est vrai qu'il faut de la paix dans ce monde et oublions le passé, regardons l'avenir et parler ou stigmatiser, on peut même utiliser ce terme, les Turcs parce qu'ils sont méchants alors qu'ils n'ont rien à voir avec le pouvoir de l'Empire ottoman, etc. Donc ça, c'est des discours qui peuvent passer aujourd'hui si on est face à des gens qui n'ont pas cette préparation intellectuelle ou, j'allais dire même militante, de connaître un peu l'atmosphère du négationnisme.
Tout à fait, ça peut même passer auprès des associations antiracistes françaises. Et heureusement, nous, en tant que collectif VAN, ça fait des années qu'on est partenaire avec SOS Racisme, donc ils sont très pointus sur la question. Dominique Sopo, qui est le président, est incollable sur cette question. Il était avec nous le 24 avril à Istanbul pour les commémorations du centenaire. Mais effectivement, vous avez des associations franco-turques, franco-françaises, tout simplement, qui peuvent se laisser piéger, sans compter que vous avez des associations franco-turques qui jouent sur le côté, l'enseignement du génocide arménien peut casser le vivre ensemble, etc. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de 2009, c'était un jeune collégien de Pont-à-Mousson qui avait empêché donc son professeur de parler du génocide arménien en classe. Du coup, le professeur lui avait fait faire un devoir, avait fait faire à toute la classe un devoir d'histoire sur le génocide arménien. Le môme avait recommencé en écrivant « Le génocide arménien n'a jamais existé, mais s'il l'avait existé, il l'aurait bien mérité ». Là-dessus, le professeur lui avait donné une sanction pédagogique, à savoir exclusion pendant 3 jours, mais pour préparer, en fait, dans l'enceinte de l'établissement, un exposé sur le génocide arménien à faire uniquement avec les sources autorisées, disons, non négationnistes. Là-dessus, les parents de ce jeune homme avaient fait appel à la COGEP, qui est donc une association franco-turque, qui avait été voir le proviseur, et le proviseur avait levé la sanction. Et ce môme s'est retrouvé héros en première page de Hürriyet, voilà l'enfant qui a tenu tête à la France.
Il faut peut-être aussi rappeler des procès en France qui étaient financés par le MEDEF turc ou la Chambre de commerce d'Istanbul pour soutenir la famille pour aller porter plainte et couvrir les frais qui concernent.
Oui, mais d'ailleurs, l'association franco-turque dont je vous ai parlé par rapport à la QPC, elle avait été annoncée dans un journal turc en janvier, je crois, enfin son action, et c'était bien précisé que c'était donc la Chambre de commerce d'Istanbul qui finançait tous les frais. Donc oui, tous les procès qui ont lieu actuellement de la part des Français négationnistes ou des franco-turcs sont financés de manière indirecte ou directe par l'État turc. Donc forcément, face à ça, nous, on est quand même très, très démunis.
Alors, question. Tête de Turc, par exemple, qui est reconnue...
Qui n'existe pratiquement plus.
Hein. Voilà. Mais justement, la question, comment peut-on combattre des sites qui sont clairement négationnistes, plus, parfois, ou, je dirais, automatiquement, racistes?
Écoutez, on en revient un petit peu toujours, c'est le chat qui se mord la queue. Comme il n'y a pas de loi de pénalisation, c'est pratiquement impossible pour nous de les poursuivre. Par contre, eux, comme je vous l'ai dit, nous poursuivent, et c'est le cas en ce moment pour le collectif VAN. D'ailleurs, si on veut nous faire des dons, j'appelle à la communauté arménienne à nous envoyer des dons pour pouvoir nous payer un avocat digne de ce nom. Voilà, donc dès qu'on traite ces gens-là de négationnistes, eux, ils peuvent nous poursuivre pour injures et diffamation, alors que l'inverse n'est donc pas vrai. Je précise aussi que justement, par rapport au site Turkey News, nous avions alerté le site de l'Express.fr, qui, je crois que c'était en 2009 ou 2010, avait fait tout un article en ligne sur les sites franco-turcs qui étaient pour ou contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et ils avaient listé tout un tas de sites négationnistes, dont Turkey News. Et non seulement ils les avaient cités, mais c'était avec des liens cliquables. Donc ça fait automatiquement remonter le référencement de ces sites. Et puis c'est de l'incitation à aller lire des discours haineux. Eh bien, ils n'avaient pas voulu, on les avait contactés, ils n'avaient pas voulu retirer ces liens cliquables au nom de du juste équilibre de l'information. On avait même sollicité Mervin Trater, qui était à l'époque donc le rédacteur en chef du journal juif L'Arche, et lui-même n'avait pas réussi, on avait été en copie de tous ses mails, il n'avait pas réussi à les convaincre qu'on ne pouvait pas donner 5 minutes pour Talat et 5 minutes pour les Arméniens, que c'était juste pas possible, quoi. Voilà.
Alors, aujourd'hui, quels sont les autres messages ou les moyens de transmettre le négationnisme sur Internet? Il y a les textes. Il y a les copier-coller dont vous avez parlé, mais ça peut être aussi beaucoup sur YouTube.
Il y a YouTube, et puis je vous rappelle quand même que toutes les émissions de radio, de télé, etc. sont diffusées également sur Internet. Donc ce n'est pas forcément des sites douteux. Quand Pierre Nora s'exprime sur France Inter au micro de Bernard Guetta, excusez-moi, je suis un petit peu enrouée, pour dire au sujet du génocide arménien, à chaque fois qu'on écrase trois mouches, on va pas parler d'un génocide. Voilà, c'est quand même dramatique d'entendre ça sur une radio nationale comme France Inter. Et c'est encore plus dramatique qu'aucun des deux journalistes présents ne lui dise « Mais c'est juste insupportable ce que vous dites, monsieur Norin, quoi. » Voilà. Vous avez aussi les sites officiels, comme celui du Sénat, sur lequel donc Pierre Nora s'est exprimé en juin, comme il est... Il est dans le cadre de la commission qui s'occupe de la réforme des programmes d'histoire. Il a été chargé par Najat Vallaud-Belkacem, d'être l'éminence morale de cette refondation. Il s'est exprimé devant le Sénat pour dire qu'il ne fallait pas enseigner le génocide arménien au collège parce que c'était de l'électoralisme. Ben, ça aussi, c'est une diffusion sur Internet. Voilà, je veux dire, c'est...
Alors justement, il y a une différence entre ce qui est écrit, diffusé par Internet, sur Internet, dans le but d'atteindre une population ciblée, c'est autre chose qu'il y ait une reprise d'une émission et qu'on la diffuse, comme nos émissions sont sur notre site automatiquement. Mais le fait d'utiliser Internet avec des textes, avec des images, la manipulation d'images, c'est pour ça que je parlais de YouTube. C'est-à-dire qu'il y a aussi la vidéo qui est très importante.
Oui, il y a la vidéo qui est très importante. Il y a fait effectivement de nombreux montages vidéo pour montrer que ce sont les Arméniens qui ont massacré les Turcs, etc. Il y a sur Internet, je coupe par rapport à votre thème de la vidéo, il y a un site qui a été lancé il y a quelques mois qui s'appelle factcheckarmenia.com. Et ce site est un modèle de perversité et de désinformation. C'est-à-dire c'est un site négationniste tout en laissant croire aux Arméniens que c'est un site arménien. C'est très très fort. Donc tout l'environnement graphique laisse penser que ce sont vraiment que c'est un site. Et donc vous retrouvez là les vidéos négationnistes, toutes les thématiques négationnistes, toute la vulgate négationniste est en ligne sur ce site-là.
Ouais. Alors Bernard Pelletot,
excusez-moi, je vais juste rajouter que il y a beaucoup d'Arméniens qui en font la promotion sur Facebook parce qu'ils ne se sont même pas attardés à regarder quel était le contenu de ce site.
Bernard Pelletot, quand on voit tout ça sur Internet, on se pose pose vraiment la question sur, finalement, comment arrêter, parce que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. On peut se dire, peut-être, qu'aujourd'hui, face à ce qu'on peut avoir dans 5 ans d'activité négationniste sur Internet, on est dans les prémices de ce mouvement, même si ça fait des années que ça existe, mais... Bon, ça va, pour l'instant, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des expressions négationnistes, mais il faut préparer le lendemain, les lendemains, et les lendemains ne sont pas prometteurs, puisqu'il y a deux États à la place de un, aujourd'hui, qui financent, qui dirigent ce mouvement.
Alors, il y avait un processus politique qui, à mes yeux, devait atténuer, voire faire disparaître... Ce négationnisme d'État, c'était le rapprochement avec l'Union européenne dans une perspective d'adhésion. C'est évidemment que si la Turquie adhérait à l'Union européenne, ce discours n'aurait plus lieu d'être, ou difficilement, beaucoup plus difficilement, hein, et qu'il se déradicaliserait.
Ou le contraire, il y aurait eu peut-être une importation de ce discours, qui est à l'intérieur de l'État turc, vers la France et vers l'Europe.
Je crois plus au pouvoir normatif de l'Union européenne.
La preuve aujourd'hui avec tout ce qu'on a et qu'on
avec
peut pas accuser.
Les droits de l'homme, déjà.
Voilà, on peut pas accuser les gens d'être négationnistes alors qu'ils le sont d'une manière très flagrante.
Depuis la déclaration de Stockholm en 2000, la mémoire des génocides est constitutif de la religion civile, je dirais, de l'Union européenne. Donc, je dirais
que la Cour européenne des droits de l'homme vient de faire vraiment une différenciation mémoire de la Shoah et. Et voilà, et celle du génocide arménien.
Ouais. Mais bon, moi je restais malgré tout optimiste par rapport à cela. L'éloignement de la Turquie, effectivement, en dépit des commentaires d'Angela Merkel récents, l'éloignement de la Turquie du processus d'adhésion peut au contraire radicaliser effectivement ce discours-là, dans la perspective donc de justement là aussi de d'avènement d'une puissance régionale avec les liens effectivement avec l'Azerbaïdjan, etc. Peut oui radicaliser ce discours-là.
Alors, on a vu pire cette année. C'est Daesh qui a envoyé une lettre de félicitations au président turc à l'occasion du centenaire du génocide arménien. Vous avez...
Ah non, ça j'ai loupé. Hein.
Ah, il y a eu une lettre envoyée pour féliciter les Turcs à cette occasion. Non. Donc, on voit justement ce qui pourrait devenir demain quelque chose de très banalisé.
Sans parler de Daesh, il y a eu en Turquie cette année des mouvements fascistes, nationalistes, qui ont étendu, donc ouvert des banderoles, joyeux 24 avril 1915. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. C'était super cette époque-là. Juste pour en revenir à ce qu'on trouve sur Internet, sur le site Turkey News ou par ses animateurs sur beaucoup de forums, c'était la manière dont eux, en tout cas, envisagent l'avenir. Et je pense que c'est important d'en parler. Donc je cite, hein, ouvrez les guillemets. « Seul un combat cohérent pour éliminer radicalement leur présence, donc la présence c'est de nous et les chercheurs, les historiens, etc., dans la vie politique des pays occidentaux, notamment par des procès pour injures, diffamation, incitation à la haine raciale, ainsi que par un effort sans relâche d'information, permettra de résoudre la question arménienne, entre guillemets, pour que soit possible le débat scientifique sur la tragédie turco-arménienne, ainsi que la réalisation dans le futur de projets entre Turcs et Arméniens. Les professionnels de l'antiturquisme doivent être retirés de la partie. »
C'est simple.
Donc, de quel site
Écoutez, je pense que c'est Turkey News, hein, mais News. Voilà, je peux le vérifier sur.
Alors,
c'est presque un appel au meurtre, hein, moi personnellement.
Quand on entend tout ça, est-ce qu'on se dit on est protégé en France ou pas?
Non, clairement pas. Clairement pas. Frédéric Ancel faisait tout à l'heure allusion à l'agression qui avait eu lieu en 2004 à Valence. Là, pour le coup, c'était hyper violent. Il y avait eu des amis du collectif Van, donc qui avaient été bras cassés, nez cassés, contusions multiples, sans compter le traumatisme. Il y avait quand même 60 personnes qui les avaient tabassés. Ils étaient 4 ou 5, enfin, dont des filles. Les coupables ont eu 1 euro avec dispense de peine.
Donc, à répéter.
Ah bah oui, c'est clairement, voilà, pourquoi se gêner, quoi, c'est...
En tout cas, nous avons voulu aujourd'hui, encore une fois, revenir à cette histoire très importante pour nous, parce qu'elle touche, comme on le dit très souvent, et ça, peut-être que les Français qui ne sont pas touchés de par leur famille ou de par leurs amis à ces histoires de génocide au pluriel, ne verraient pas comment on joint la question de la dignité humaine à cette blessure qui nous touche quand on est visé par ce négationnisme d'État ou individuel d'ailleurs. Mais c'est vraiment une question de dignité humaine dont il s'agit aussi, mais aussi de droit de se défendre dans cette République qui a la responsabilité de nous défendre, d'où la nécessité d'une loi, comme dans le cas de la Shoah, le génocide arménien, soit lui aussi et ses descendants soient protégés. Merci Bernard Brunetto d'avoir participé à cette discussion. Merci Seta Papazian pour votre intervention. Et je remercie Frédéric Ancel qui est à l'initiative des assises de lutte contre le négationnisme. Et je rappelle que la prochaine édition, la sixième édition de ces assises, auront lieu le 24 janvier, toujours à Paris. Merci.
Merci.
Et à la semaine
Merci.
Prochaine. Au revoir.
Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.